CJSO 101.7. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour tout le monde. À une soixantaine d'heures de la Journée internationale des droits des femmes, nous allons consacrer cette édition de la tribune à la situation des femmes dans la région, le Québec, le monde. Mes invités, 6 femmes d'ici qui sont d'univers différents. Marie-Pierre Gamache, Michel Gauthier, Catherine Aubjoie, Carmen Ostigui, Héloïse Paquin et Geneviève Péloquin. La tribune des femmes, après la pause.
Avec Denis Marion, tous les jeudis midi, tête première.
Ici Denis Marion. Plongez avec moi dans l'actualité, avec les gens qui la font, mais aussi avec celles et ceux qui l'observent et qui l'analysent. Pour débattre, pour échanger et pour apprendre. Faisons-le ensemble chaque semaine, le jeudi midi, CJSO 101.7.
Tête première, l'émission où des débats font avancer les choses. Denis Marion parle des vrais sujets et pose les bonnes questions. Tête première, tous les jeudis midi à CJSO.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi, ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné. Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
Tu aimes ça simple? Passe à la Grange à Houblon pour tes lunchs, tes soupers, tes collations, tes breuvages avec ou sans alcool ou même pour un petit café à emporter. Soupe, salade, sandwich, pâte fraîche, pizza, sauce maison, viande locale, pain, produits végétariens, plats préparés sans gluten. Tout ça à la même adresse, la Grange à Houblon.
La chronique Bienvenue chez nous à Contrecoeur vous est présentée ce mercredi à 10h15 et 15h30. Apprenez-en plus sur les activités de la ville de Contrecoeur et sur les services offerts. Cette chronique est une présentation de la ville de Contrecoeur. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Ce n'est pas la tribune tout court ce midi. C'est à une soixantaine d'heures du 8 mars, la tribune des femmes, savoir, culture, santé, famille, éducation, entrepreneuriat, sport. Elles habitent le monde de leur influence, de leur talent. Mes invités, 6 femmes d'univers différents. Marie-Pierre Gamache, autrice, compositrice, interprète. Michel Gauthier, communicatrice et l'œuvre à la SADC. Catherine Aubjoie, historienne, notamment historienne. Carmen Ostigui. Elle chante elle aussi, elle écrit elle aussi, et elle encourage l'écriture chez les jeunes. Héloïse Paquin, femme d'affaires, copropriétaire de Botanix, comptoir Richelieu. Et Geneviève Péloquin, directrice de l'organisation à la permanence nationale du Parti québécois. Alors, ben bonjour à toutes.
Bonjour.
Et voilà, vous avez même pas une chorale. J'ai envie de débuter l'émission en me tournant vers Catherine Aubjoie, que je me plais à appeler notre historienne en résidence à CJSO, pour lui demander de nous parler un peu de l'histoire de cette journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Comment c'est né? C'est célébré depuis quand? C'est à l'initiative de qui?
Ben, il y a comme plusieurs origines, mais en fait, ça a commencé fin 19e, début 20e, où les femmes ont commencé à revendiquer des salaires égaux. Enfin bon, c'est pas encore réglé, mais enfin, ça prend du temps. Mais finalement,
il y a... Elle commence déjà à revendiquer.
Oui. Le 8 mars 1857, il y a eu une marche des femmes à New York.
1857,
oui, pour réclamer justement des salaires égaux. Puis la journée de seulement 10 heures. Voilà. Et en 1917, à Saint-Pétersbourg aussi, le 8 mars, il y a des femmes qui ont marché pour du pain. Tu vois, on voit tout de suite les revendications qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, l'équité salariale, la pauvreté. Puis ensuite, ben, le 8 mars est devenu peu à peu la journée où on a célébré la journée de la femme. Ça a été décrété par l'ONU en 1977 que le 8 mars, c'est la journée de la femme.
Oui, on disait ça à l'époque, c'est journée de la femme.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que c'est devenu le 8 mars. Depuis, on célèbre dans divers pays. pas tous, parce qu'il y a des pays où les droits des femmes sont bafoués, là. Mais on essaye de voir les combats qui ont été menés, la lutte qui sont en train de se jouer, l'importance de continuer. Enfin, c'est à chaque fois, c'est ça, le 8 mars.
Les femmes, mon amie historienne, elles ont fait des pas de géant au cours du dernier siècle. On leur a notamment accordé le droit de vote au Québec à compter de 1940.
40, ça fait même
qui leur a été permis à compter de 1918 au fédéral. On a tardé un petit peu.
Oui, c'est ça. Au fédéral, c'était en 1918. Il y a des dates quand même importantes, oui, comme en 1964, tu as la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. Avant ça, une femme ne pouvait pas faire un métier différent de son mari s'il ne voulait pas. Elle ne pouvait pas ouvrir un compte en banque. C'était une mineure au niveau de la loi.
On a aboli, je cite, le devoir d'obéissance de la femme à son mari.
Oui,
et on a accordé le droit à la femme d'administrer et de disposer de ses propres biens.
Oui, c'est ça.
Mes invités trouvent ça drôle, le droit d'obéissance à son mari.
Non, pas ça drôle du tout.
Non, oui. Boy.
Non, mais ça a l'air tellement ridicule vu en 2024. Hein, on a de la difficulté à croire que ça ait pu exister. Hmm? Je t'ai interrompu dans ta nomenclature de dates et d'années importantes.
Lundi, on est quel jour aujourd'hui?
Oh,
on
mardi.
Est
mardi.
Elle va nous parler de sa mère patrie, je suis sûr.
Ma maman patrie.
La France.
Non, c'est que la France est devenue le premier pays à mettre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, là, dans sa constitution. C'est le premier pays au monde qui fait ça. Ça, c'est un pas de géant aussi, un gros pas, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, en ce moment, le droit à l'avortement, il est débattu en brèche dans plusieurs États.
Mais c'est ça, j'allais dire, la France fait ça, alors que ce droit à l'avortement, il recule dans nombre de pays.
On pensait que c'était acquis, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est acquis pour la cause des femmes. Ouais. Même s'il y a eu des avancées énormes, comme le droit à l'avortement, c'était évident, ça recule.
Il y a une longue liste, une très longue liste qu'on pourrait dresser là des avancées qu'ont connues les droits des femmes avec les hommages qui s'imposent aux championnes de ces avancées-là. On va y revenir. On va y revenir parce que j'aimerais ça, avant, vous entendre sur des héroïnes. Je ne sais jamais s'il faut dire des héroïnes ou des héroïnes. C'est Carmen Ostigui qui va me dire ce qu'on doit faire.
C'est H-U-E ou H-aspiré.
Ouais.
Ça, c'est un grand débat.
Ben, vous aspirez toutes à être des héroïnes. Je vais dire héroïne d'abord, sans la liaison. Alors, je veux, avant de vous entendre là, sur les Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean, Marie-Gérée Lajoie, Marie-Claire Clun, Pauline Marois, vous entendre sur des héroïnes plus anonymes. Vous entendre sur vos grands-mamans et vos mamans. Comment ont-elles tracé la voie, ces femmes-là, à ce que vous êtes chacune devenues personnellement, qui veut briser la glace? C'est une grande question.
Oui.
Il faudrait que tu nous pointes du doigt, qu'on sache qui commence.
Ben là, Héloïse Paquet a l'air à vouloir briser la glace. Alors, je t'écoute, Héloïse.
Ma maman a eu une grande influence, ça, c'est certain, dans nos vies. On est deux femmes d'affaires qui avons repris de notre père, qui avait hérité l'entreprise de... Ben, pas hérité, acheté de son père. Mais on est deux femmes aujourd'hui, mais les femmes ont quand même toujours été présentes dans l'entreprise. Là. Même si c'est mon père qui était donc propriétaire, ma mère était toujours en arrière de lui, là, et... Les décisions se prenaient quand même toujours...
C'était l'époque du derrière chaque grand homme, il y a une grande femme.
Oui, mm-hmm. Oui. Et même en fouillant dans l'historique un peu de l'entreprise, je me rends compte que même une sœur de mon père qui a été présente dans les débuts, qui a acheté, qui était vraiment dans les copropriétaires là, de Comptoir Richelieu, ça c'est en 1955, là, 54-55. Donc déjà, j'ai été surprise, mais... vraiment positivement que ma tante ait pris part à ça. Là.
Excellent. Alors, les autres, comment vos mamans et grand-mamans ont-elles ouvert la voie à ce que vous êtes personnellement devenue? Je regarde Carmen, je ne sais pas.
On va y aller chacun notre tour.
Ah, bien.
Chez moi, ça a été particulier au niveau de ma mère. Oui, elle était très, très présente parce que les tâches abondaient là, avec la ferme laitière et tout. Mais elle ne se contentait pas de ça. Elle continuait évidemment à tout faire la nourriture, à vendre les légumes. Aujourd'hui, c'est devenu un vignoble en passant, là, la terre natale. Mais c'était assez extraordinaire de voir qu'elle avait multiples talents, mais qu'elle les utilisait tout le temps pour... tout le monde durant, par exemple, couper les cheveux, tout ça. Alors, les gens venaient chez nous, s'ils manquaient de vêtements ou quoi que ce soit, faisaient des petits sacs. Et puis, ma grand-mère s'est greffée chez nous avec le temps, quand grand-papa est décédé. Et puis là, ça a fait vraiment un duo de femmes. C'est des femmes fortes, mais tout en douceur, tout en courage, tout en
solidarité de leur communauté, si je comprends bien.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout le temps. C'était beau à voir, et en même temps, bien, c'est possible de faire valoriser ses propres talents de cette façon-là. C'était toujours dans le positif ou dans le constructif.
Michel Gauthier?
Ben, de mon côté, moi, mes grands-parents étaient tous en affaires. Mon grand-père, du côté des Gauthier, avait une épicerie générale. Et du côté de ma mère, mon grand-père avait la laiterie Fort-Richelieu. Alors, puis malheureusement, sa conjointe, ben en fait, c'était des gens qui étaient... pour les affaires, oui, mais qu'ils étaient aussi beaucoup pour la culture, beaucoup dans la lecture, apprendre. C'était très, le savoir était très, très, très important.
Et c'est sans doute là qu'ils ont tracé la voie. Est-ce que tu es devenue, ben, toi, comme femme?
Ben moi, je pense que oui, effectivement. Autant du côté de paternel que maternel, le savoir était très, très important. Donc, on encourageait beaucoup, beaucoup la lecture. On encourageait beaucoup... D'ailleurs, on riait parce que ça faisait des chicanes un peu à la maison parce que... Quand mon père arrivait pour dîner, on cachait tous nos livres en dessous de la table parce que lui arrivait et il y avait une quantité de temps pour manger, puis il voulait nous parler, il voulait pas qu'on ait la tête dans nos livres. Mais aussitôt qu'il partait, ma mère nous encourageait parce que ma mère lisait beaucoup. Fait que
aujourd'hui, non, nous, c'est notre iPad qu'on a le.
Oui, ouais, mais je pense pas que l'iPad passerait non. Aujourd'hui. Mais bon, en fait, on encourageait beaucoup, beaucoup la culture et la discussion chez nous. Avoir une opinion, et pas juste avoir une opinion pour avoir une opinion, la discuter, lui amener des arguments. Pourquoi? Pourquoi tu aimes le bleu? Hein? Pourquoi tu as cette opinion-là? Alors, ça amenait beaucoup de conversations chez nous, parce qu'on était quand même 8. Alors, et c'est encore ça aujourd'hui. Et les femmes, juste pour terminer là-dessus, moi, j'ai jamais fait de distinction. J'ai été avec des garçons. Et... j'ai été élevée de la même façon, c'est-à-dire que j'avais autant le droit de parole, j'avais autant le droit d'essayer que mes frères, et vice-versa. Ça, c'était très important chez nous.
OK. Marie-Pierre Gamache, toi, pour maman, grand-maman, comment oui. t'ont-elles ouvert la voie?
En fait, les deux ont été très, très présentes. Moi, j'habitais, je ne sais pas si vous vous rappelez, le camping Marquis à Tracy. Donc, moi, ma grand-mère vivait là, côté des dunes, dans le temps, c'était Tracy. Puis ma mère aussi était là. Donc, moi, ma famille était... ben, il était très présent, mais je viens d'une famille que ça venait de la Beauce. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu différent. Hein? Les artistes, souvent, ça vient d'un milieu plus difficile. Pas toujours, mais généralement, de ce que j'ai entendu. Pour ma part, moi, ma grand-mère était là. Mais, tu sais, c'était pas comme un apprentissage. C'était plus... elle était présente. Comme j'allais dîner là, c'était très familial, très convivial, on mangeait du comfort food, c'était vraiment ça. Puis ma mère, elle, pour m'encourager dans la musique, écoute, on était très, très pauvres, évidemment. Puis ma mère, ben, elle faisait de la vaisselle dans une cantine, puis c'était, ben, elle donnait tout, tu sais, quand même. Tu sais, peu importe, on était dans un milieu difficile, mais c'était toujours... ma mère avait... écoute, elle avait tellement peur de conduire à Montréal. Puis dans ce temps-là, j'avais un producteur, André Di Cesare, qui, lui, c'était un grand producteur. Il avait parti René Martel, Éric Lapointe. Puis là, ma mère, elle allait par-dessus sa peur de conduire dans le trafic en ville, tu sais. Fait que pour ma part, moi, c'était vraiment ça. C'était plus le côté... c'est le côté difficile, mais tellement de courage qui passait par-dessus leur peur. Puis aujourd'hui... ben sans ma mère, évidemment, j'aurais jamais fait ça, tu sais. Fait que moi, ça a été plus le côté, pas culture de l'école, mais plus La vie est plus un combat, puis on passe par-dessus ça, puis aujourd'hui, ben, je gagne ma vie avec ça, tu sais. Donc, moi, c'est mon côté plus courageux, peut-être, de cette histoire.
Alors, Geneviève, maintenant, à toi, que nous dirais-tu de maman Christine et de tes grands-mamans?
Rachel.
Rachel? Regarde, ben, y en a eu deux?
J'en ai deux, oui. En fait, mais j'en ai une encore en vie, en fait, ma grand-mère Rachel. Ma mère, Christine, en fait, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'elle est là. Parce que sans maman, je n'arriverais pas à faire mon métier actuellement. Elle est très, très présente dans ma vie, dans la vie de mes enfants. J'ai un horaire un peu particulier en politique, donc c'est maman qui prend beaucoup, beaucoup le relais. Cela étant, ma mère, aussi loin que je me souvienne, c'est une fille qui a toujours continué à développer ses projets, ses passions. Elle fait de la poterie, elle a fait de la couture, elle tissait, elle apprend encore des langues. Elle a une passion d'apprendre qui, je pense, elle nous a transmis aux quatre enfants. Chez nous, les trois filles, un garçon en 4 ans, en 5 ans. Elle nous a tous transmis cette passion-là. Qui est de poursuivre, d'apprendre, de foncer, d'essayer. C'est quelqu'un qui a beaucoup consacré sa vie à ses enfants. Elle était tout le temps là pour faire, que ce soit un travail d'école, que ce soit une recherche, que ce soit... T'sais. Elle aurait beaucoup aimé enseigner, fait que je pense qu'elle
nous l'a été sans doute
excellente. Elle aurait été vraiment excellente. Et ma grand-mère, ma grand-mère Rachel, aussi loin que je me souvienne, on allait dîner là, on est très proche de ma grand-mère, peut-être très proche de mon grand-père aussi, ils ont eu un magasin de poterie, ils ont eu dans le sol pendant des années. Ma grand-mère a tissé, ma grand-mère a étudié, aurait voulu aller à l'université à une époque où c'était beaucoup plus difficile. Elle était la deuxième de 9 enfants, donc son père n'avait pas les moyens de lui payer l'université. C'est la seule qui aurait voulu y aller, ça lui a coûté toute sa vie. Mais c'était quand même la plus éduquée de son village, donc c'était des modèles importants pour moi. Wow.
Catherine, vous avez eu le temps de réfléchir à votre réponse.
Oui, mais moi, mes grands-mères, elles ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ce qui trahit un peu mon âge, mais bon. C'est des modèles de résilience, des femmes fortes, là. Il y en a une qui est tombée veuve, l'autre, son mari a été fait prisonnier par les Allemands. Enfin, bon, bref, ils se sont retrouvés quand même. Mais c'était vraiment des femmes fortes. Et puis, maman, elle a hérité de sa mère. C'est une femme aussi, elle est toujours vivante. Elle va avoir 90 ans, elle vit toute seule. Il n'y a aucun problème. Et elle est très résiliente aussi. Puis aussi, elle m'a donné le goût de la lecture, de toujours apprendre. Elle continue à s'émerveiller aussi et à se tenir au courant. Elle a son ordinateur, sa tablette, son cellulaire. Donc ça, c'est ce que... Et puis, ce que je retiens de maman aussi, c'est que quand j'avais 15 ou 16 ans, moi, je commençais à penser à l'université. Puis, je me rappelle toujours que mon père, il a dit, « C'est pas la peine qu'elle aille à l'université parce qu'elle va se marier, elle aura des enfants. Ouais. » Ah bon? Alors, maman, elle a dit, « Mais non, mais pas du tout. C'est pas parce que c'est une fille qui va absolument se marier puis avoir des enfants. Il faut qu'elle ait un métier. » Alors, mon père, j'adorais mon père, et puis bon, c'est très bien, mais il était très conservateur, et ça, c'est, je retiens ça de maman aussi. Alors, j'ai été à l'université, j'ai fait mes études.
La première question qui m'est venue en tête quand je me suis dit, il faut que je leur demande de me parler de leur maman et de leur grand-maman, c'était pas celle que je viens de vous poser, à savoir comment elles ont tracé la voie à ce que vous êtes devenues chacune personnellement, c'était, quelle leçon de courage retenez-vous d'elles? Oh! Tu peux encore dire, là, Héloïse Paquin, même, bonne question.
Ouais, c'est ça. C'est moi qui n'ai pas le temps de penser.
Oui, il faut que ça commence. On commence à l'inverse.
Oui, c'est sûr. Je pense à ma mère. Oui, c'est courage. Ma mère, je crois que il n'y a pas de limite. Moi, ma soeur, mes frères aussi, là, mais moi et ma soeur, on pouvait faire ce qu'on voulait, puis... Oui, elle a toujours eu ce courage-là de s'affirmer, de nous dire aussi, de s'affirmer nous-mêmes. Donc, oui, c'est un grand modèle encore aujourd'hui. Ma mère a eu 85 ans cette semaine. Puis, bon, la santé, des fois, un peu décline, mais elle est encore courageuse là-dedans. Elle garde le sourire, puis elle, vraiment, là, est encore un modèle là, pour nous. Là.
On n'est pas forcé de faire un tour de table complet. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire sur le courage des femmes, mais plus particulièrement de vos mamans et grand-maman Michel?
Moi, je dirais que c'est beaucoup la résilience, parce que ils font partie d'une époque où ils avaient, bon, première des choses, ils étaient à la maison avec les enfants, bon, le mari travaillait, mais c'est beaucoup un courage, c'est beaucoup un modèle de résilience, parce que moi, ma mère aurait été une excellente architecte ou entrepreneur en construction. elle avait un talent pour gérer la famille au corps de sous près, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Puis, à la gang qu'on était, là, elle a fait des miracles. Elle a fait des miracles, mais une résilience. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, elle aurait pu faire tellement autre chose, ce que nous faisons aujourd'hui, que nous avons la possibilité, nous, de faire aujourd'hui.
Ouais, grâce à elle.
Grâce à elle, ouais, exactement. Tu sais, elles auraient pu faire tellement plus. Ouais. Puis, c'est ça. Mais aujourd'hui, on les remercie parce que moi, si je fais... si j'ai pu faire et toucher à beaucoup, beaucoup de choses, c'est parce qu'elle m'a toujours encouragée en disant « T'es pareil comme tes frères, tu veux y aller, vas-y. »
Bon.
Tantôt, je suis le même. Oui, effectivement. Je travaille avec beaucoup de femmes, tu sais, qui... moi, j'ai pas d'enfants. Puis... les gens avec qui je travaille, ben généralement les femmes, ils ont des enfants. Tu sais, puis je me fais souvent poser la question, toi, est-ce que t'aimerais avoir des enfants? Moi, j'en veux pas. Tu sais, mon chum, il y en a deux, ça va super bien, mais je le sais pas qu'est-ce que les femmes ont. Puis on dirait que je me reconnais un peu, mais pas à 100%, parce qu'il y a le côté maternel qui est un super power. Puis quand tu parlais, on dirait que je me disais, tu sais, oui, la résilience, puis tantôt, ta mère qui faisait tout, puis que, tu sais, en plus, elle arrivait à la maison, puis qui fait à manger, puis je vois tellement de femmes qui m'inspirent, puis moi, chez moi, j'ai, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de projets, moi, mes projets sont mes bébés, tu sais, c'est un peu comme ça, je me considère aussi entrepreneur, dans la musique aussi, tu sais, je book des shows, il y a beaucoup de choses, puis je suis comme, j'en ai tellement, puis là, je suis de même, puis je me dis, ces femmes-là, comment font-elles? C'est quoi ce superpower-là que les femmes ont?
Il y a un mot pour ça, ça s'appelle la charge mentale, puis on va y revenir au cours de l'émission.
Peut-être.
Puis sur le courage, là, les autres, vous êtes sauvés, pas par la cloche comme à l'école, mais par les publicités. Alors, on va aller écouter quelques publicités, on est de retour tout de suite après à la tribune des femmes.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
La ville de Sorel-Tracy dévoile la composition du comité de candidature qui travaillera au dépôt du dossier de Sorel-Tracy à titre de milieu hôte des Jeux du Québec à l'été 2027. Le journaliste sportif natif de Sorel-Tracy, Yannick Lévesque, préside le comité de candidature. Marc-André Fleury, originaire de la région, gardien de but du Wild du Minnesota, partage le rôle de co-porte-parole avec l'athlète en natation Marie Mathieu, aussi native de Sorel-Tracy. Le comité est composé de 25 autres membres, dont le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, et ses homologues de Longueuil, Contrecoeur et Saint-Joseph de Sorel, Catherine Fournier, Maud Allaire et Vincent Deguise, de sportifs et sportives, de directrices et directeurs d'institutions et de femmes et d'hommes d'affaires.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Le printemps, c'est payant.
Votre mission, si vous l'acceptez, dès le 19 mars, écoutez CJSO tous les jours de la semaine et suivre les instructions d'Alex Trudel à l'émission Yat ce matin. L'objectif, gagner 101,07$ en argent. Nom de code, mission.
Restez alerte, les détails à venir à CJSO.
À CJSO 101,7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Savoir, culture, santé, famille, éducation, entrepreneuriat, sport, les femmes habitent le monde, de leur influence, de leur talent. Mes invités ce midi à une soixantaine d'heures de la Journée internationale des droits des femmes, Marie-Pierre Gamache, Michel Gauthier, Catherine Objoie, Carmen Ostigui, Héloïse Paquin et Geneviève Péloquin. Catherine Objoie, vous voulez revenir sur le courage?
Oui. Oui, je trouve, ben, depuis, écoute, j'ai toujours une perspective d'historienne, mais depuis les débuts des temps, là, les femmes ont fait preuve d'un énorme courage pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison. On dit c'est l'âme du foyer. Encore aujourd'hui, elles font des multitâches. elles ont une charge mentale importante. Et puis, quand on voit à l'échelle mondiale, c'est toujours les femmes qui ont le fardeau des enfants, qui sont plus pauvres que les gars, souvent. Ici aussi, les femmes monoparentales avec des enfants. Donc, il y a un énorme courage, une énorme résilience de la part des femmes. Puis on est plus résistante à long terme. Ça a été prouvé. Hein? Ça a été prouvé.
Je vous pose une question sur laquelle a trébuché une ministre de la Condition féminine en 2016. Je regarde Geneviève parce que je me demande si elle sait à quelle question je fais allusion.
Non.
Non? La question était, vous définissez-vous, Madame Thériault, c'était-elle la ministre, comme féministe? Et elle avait dit que non, elle refusait cette étiquette-là. Vous autres, est-ce que vous acceptez cette étiquette-là? Est-ce que vous vous définissez, mesdames, vous autres, comme féministes? Qui veut briser la glace?
Marie-Pierre va commencer.
Marie-Pierre, vas-y Marie-Pierre.
Moi, c'est drôle. Ben, souvent, on m'a posé cette question-là parce que je fais de la musique, mais j'ai aussi, dans le fond, je fais du marketing de réseau en ligne et je travaille avec beaucoup de femmes. Puis moi, je me considère pas du tout féministe. Par contre, protectrice, oui, dans le sens où, tu sais, quand on parle de l'histoire, de l'avortement, c'est tous des points qui vont venir me chercher, évidemment, tu sais, je veux que la femme ait les mêmes droits, oui, mais je trouve que féministe est un mot tellement puissant, c'est comme si tous les points étaient pour la femme, puis moi, je suis un peu moins pour ça, tu sais. Entre autres, je vais donner un exemple, tu sais, pour ma part, à la maison, moi, c'est mon chum qui fait, tu sais, tout ce qu'on parle du côté femme, de, tu sais, le lavage, c'est lui qui fait ça, tu sais. Puis là, je suis comme, tu sais, je suis comme mal placée pour comme être trop d'un côté, trop de l'autre. Je pense qu'évidemment, je suis pour l'équilibre, je suis pour défendre les droits qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eu ou qu'on a perdu ou qu'on veut retrouver, quoi que ce soit. Mais je trouve ça tellement puissant, féministe, moi, je me définirais pas par ce mot-là.
Je me demande si plus on est jeune, moins on s'identifie au féminisme.
Peut-être qu'on l'a moins vécu.
Oui, ben c'est ça. Il y a des batailles que vous n'avez pas eu à mener.
Ou vues même, tu sais. Des fois, il y en a que je n'ai pas vues, tu sais. Mm-hmm. Ou même entendu, il y a des trucs que je fais « Ah, on est encore là. »
Les autres, est-ce que vous vous définissez comme féministe ou c'est une étiquette qui ne vous plaît pas?
Moi non plus, je me définis pas nécessairement comme une féministe. Je veux.
C'est Sophie Paquin.
Héloïse Paquin qu'on écoute. Sophie est ma sœur.
Oui, oui. Non, mais je voulais la saluer en passant.
Ben oui, c'est ça. Je me considère plus comme humaniste. Tu sais, de dire que c'est l'équité, mais partout. Oui, bon, des fois, c'est du côté féminin qu'il y a peut-être un déséquilibre. Ben, des fois, ça peut être du côté plus masculin. Puis aujourd'hui. Bon, la révolution un peu des genres, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment définir ça vraiment, tu sais, le féminisme dans le fond? Bon, ce qu'on veut, c'est l'équité dans tout, tu sais, fait que...
Alors, ce qui finit par « ist », ça fait peur à bien du monde.
Oui, mais...
Moi, je suis séparatiste, puis je l'assume, non, non mais... Carmen Ostigui...
Oh, moi... J'arrive pas à me définir comme étant féministe.
Non.
Parce que j'ai juste toujours ancré à mon intérieur de pouvoir protéger tout le monde, qui que ce soit, à l'état d'humain, même félin, canin, etc. j'arrive pas. Oui, excuse-moi. J'avais oublié le végétal. Mais non, c'est...
Mais disciplinez pas Carmen.
C'est ça. Je sais que quand ma mère et ma grand-mère faisaient tout, mais ils créaient aussi. Puis c'est ça ce qui m'a été transmis, c'est de le plaisir et dans le travail, le plaisir et finalement plus le courage ou quoi que ce soit ne s'appelle plus un autre mot ou le féminisme ou tout ça. Ça devient comme... C'est comme faire une bibliothèque dans un rang de campagne. C'est assez rare, mais ça a été fait chez nous. Puis, tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça, ou même jouer avec les lettres en enlevant les roches dans le champ, tu sais, trouver des mots, tout ça. Fait que le féminisme, il était comme pas vraiment présent dans ce sens-là.
OK, je vais pas passer notre dernier 20 minutes là-dessus, mais là, il faut que je fasse le tour de table pareil, parce que je suis en train de faire un sondage, ça paraît pas, là, mais là, il y a... Il y en a deux sur six, trois sur six qui se considèrent pas féministes ou qui ne... Ça. Pour lesquels l'étiquette, auxquelles l'étiquette ne plaît pas particulièrement. Toi, Michel Gauthier?
Ben, je vais vous dire, si égalité, équité, inclusion rime avec féministe ou passe par le mot féministe, je vais vous dire que je suis une féministe. Il est vrai que plus jeune, j'avais de la misère à m'identifier au mot féministe parce que je voyais tout le temps la dame enragée au micro puis qui était quasiment en train d'embarquer sur l'animateur. Je me définis pas, je suis une personne de centre. Mais aujourd'hui,
c'est vrai.
Mais aujourd'hui, l'égalité, l'équité, l'inclusion, j'ai l'impression que on perd du terrain. Et ça m'interpelle. Moi, ça m'interpelle. J'ai peur pour la prochaine génération. Moi,
donc, les combats féministes.
Et puis, je veux juste nommer Nicole Bergeron, que j'ai côtoyée. Moi, j'ai eu la chance de fonder un femme club il y a maintenant quelques années. Et j'avais dit à Nicole Bergeron que je n'étais pas une féministe. Et elle était presque montée sur la table. Alors, Nicole, aujourd'hui, je te rends hommage. Il faut continuer à être vigilante, il faut continuer à être aguerrie à ce qui se passe.
C'est bien que tu la nommes, Nicole, parce qu'elle a organisé, je ne sais pas combien, le 8 mars. C'est incroyable. Geneviève, es-tu féministe, toi, là? Attention, le Parti québécois t'écoute peut-être ce midi, là, puis tu vas être dans...
Probablement, sinon ils vont l'écouter en différé. Cela étant, le problème, le mot féministe, c'est justement, comme vient de dire, c'est un terme qui a été très associé à de la revendication. Ouais. Je pense qu'au fond de moi...
Après, ça fait quoi, ça?
Mais j'ai rien contre la revendication, Sylvain, mais tu sais, je veux dire, moi, le combat de tous mes jours n'est absolument pas le féminisme. Il est probablement plus sur une question d'équité de tous, qui effectivement passe par une partie de féministe. Mais l'image qu'on a du féministe, c'est que le combat principal à cette personne-là est le féminisme. C'est correct qu'il y en ait, j'ai aucun problème à ce qu'il y en ait, ce n'est pas le mien, par contre.
Mais dans le fond, je suis féministe, moi.
Bon, alors nous venons d'entendre Marie-Pierre Gamache changer d'idée. C'est correct, c'est correct. C'est bon de changer d'idée de temps en temps. Toi, Catherine Hobjoie, es-tu féministe?
Oui, bien, écoute, je vais être... Exactement, Michel, j'aurais pu dire ce qu'elle a dit. Mm-hmm. Merci. C'est ça, c'est que le mot féminisme, avant, là, c'était vraiment, c'est ça, la fille qui arrache son soutien-gorge, et puis qui... Mais c'est ça, c'était l'idée du féminisme enragé, parce que justement, les générations d'avant, elles ont dû se battre. Maintenant, on a des droits acquis. Mais il faut rester vigilante. Donc, c'est sûr que les filles d'aujourd'hui, les plus jeunes, elles disent, ben non, regarde, parce qu'il y a des féministes qui disent, regarde, il faut au moins avoir l'équité, je sais pas, moi, sur un conseil d'administration ou au gouvernement, on va prendre des femmes même moins bonnes que les gars, parce qu'il faut absolument autant de gars que de femmes. Tu sais, il y a des trucs, là, il faut quand même pas exagérer, là,
Est-ce que c'est à l'avantage des femmes?
Ben non, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous sommes plus humaines que féministes, mais il faut rester vigilante.
Quand... même pour enchérir que c'est pas tant la parité homme-femme, comme sur les conseils d'administration, comme la diversité. Ouais. La diversité, c'est de l'inclusion, c'est d'autres communautés, c'est donc... La diversité, oui, c'est un plus dans n'importe quelle organisation. Oui. Bon, c'est pas nécessairement... Ouais.
Alors, j'ai parlé, ma gang de pas féministes, au cours du premier segment de l'émission. Toi, t'es féministe, c'est vrai. Ouais, mais t'es féministe tiède un peu, je trouve. Non,
je ne monterai pas sur la table.
Moi, je trouve que c'est comme à la lumière. C'est ça. À la lumière des commentaires qu'il y a eu un peu partout, là, je dirais que les droits acquis, je séparerais le mot acquis en deux parce que c'est peut-être ça la question. Les droits acquis.
Bon, j'ai promis pendant le premier segment de l'émission qu'on allait revenir là, à la très longue liste des avancées qu'ont connues les droits des femmes depuis un siècle. On a nommé le droit de vote, on a nommé le droit d'administrer, de disposer de leurs propres biens. Lesquelles autres grandes victoires vous viennent spontanément en tête? Y en a-t-il d'autres qui vous viennent spontanément en tête? Geneviève, je pensais que tu étais parlé des CPE.
Évidemment, il y a les CPE. Il y en a plusieurs. J'essaie de choisir un, en fait. Bon, mais tu me donnes les CPE, c'en est un excellent qui a donné effectivement une possibilité aux femmes de retourner sur le marché du travail, qui était un projet porté par Pauline Marois, qui est ensuite devenue la première ministre du Québec. Projet qui avait qui connaît quelques problèmes actuellement, mais qui avait pour but principal d'avoir un enfant, une place, pour que les femmes n'aient pas la charge de trouver une garderie, de rester à la maison, et que aussi le fait d'aller travailler ne serve pas exclusivement à payer la gardienne. Beaucoup de femmes de la génération de ma mère, quand moi j'étais enfant, ne sont pas retournées sur le marché du travail parce que c'était d'aller travailler, puis de donner à une gardienne. Et en plus, s'ajouter toute une charge mentale autour de ça très grande. Donc, c'était... Ouais. Fait qu'il y avait vraiment une volonté de permettre aux femmes... Puis c'est vraiment un beau pas d'égalité, là. Okay. On parle d'égalité.
En affaire, Héloïse Paquin, l'égalité homme-femme, jugez-vous qu'elle est atteinte? Je pense à la possibilité pour une femme de se lancer en affaire, à la possibilité pour une femme d'assumer un poste de direction dans une entreprise... Est-ce que les portes de l'entrepreneurship en 2024 sont aussi grandes ouvertes aux femmes qu'aux hommes, vous pensez?
Je dirais que... Je dirais qu'au Québec, oui. Je pense qu'ici, on a vraiment une grande ouverture. Je ne peux pas parler quand même pour, bon, peut-être des plus grands conseils d'administration. Mais pour l'entrepreneuriat, là, les PME, je trouve qu'on va souvent croiser des femmes à la tête d'entreprises. Ma sœur aussi se fait maintenant présidente du conseil d'administration du groupement Botanix. On voit beaucoup de femmes, je trouve, puis qui apportent vraiment un autre côté là, à l'entrepreneuriat. Là, dans d'autres pays, peut-être.
Ouais.
Moins.
Je m'excuse. Michel Gauthier, vous qui œuvrez aux communications d'un organisme de développement économique, la SADC, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce thème-là?
Bien, en fait, il faut considérer qu'au Québec, 48 % c'est des femmes, hein? Mm-hmm. Le restant, c'est des hommes. Là-dessus, tu as 36 % qui sont des gestionnaires de haut niveau, puis on a 16 % qui sont à la tête d'entreprises. On voit encore de la difficulté, c'est-à-dire à cause de la charge mentale qui vient avec le rôle de mère de famille, la responsabilité à la maison, souvent ils ont des difficultés. Quand ils viennent pour présenter des projets au niveau du financement, souvent ils vont avoir un peu plus de difficultés. Quand ils vont présenter un projet égal à un homme versus une femme, puis on dirait que l'homme va l'avoir plus que la femme, malgré qu'on voit de plus en plus l'ouverture, là. On voit de plus en plus de plateformes d'aide, d'accompagnement, de mentorat.
Mais je comprends que ce n'est pas parfait.
Mais ce n'est pas parfait.
Il y a encore du chemin à faire.
Il y a du chemin à faire à cause, justement, des stéréotypes, souvent. Mm-hmm. Et pour même la femme, des fois, va se considérer même pas entrepreneur alors qu'elle l'est.
Oui.
On part de loin, là.
Instinctivement. Instinctivement, on dirait que c'est comme le syndrome de l'imposteur, tu sais. Je travaille avec beaucoup de femmes en ligne aussi, que c'est ça, ils sont comme, ils ont peur. Ils ont peur de déranger le chum. Ils ont peur que le chum pense qu'ils mettent trop de temps. Ils ont peur. C'est ancré dans nous.
C'est la charge mentale. Être entrepreneur, c'est entreprendre.
Exactement.
Juste être femme à la maison. T'es entrepreneur.
C'est complètement fou.
Tu fais des choix, tu entreprends des choses. Donc, on a beaucoup, là. Les femmes ont souvent ça en
effectivement,
rêve.
Mais ils ont de la misère à se définir comme des entrepreneurs.
100%. D'accord. 100%.
Quand on leur dit, mais mon Dieu, c'est un projet, tu pourrais l'amener plus loin. Mm-hmm. Oh, ben je fais ça, c'est une passion.
Oui.
C'est une à côté.
C'est vrai.
En attendant.
Mais c'est vrai.
Parce qu'ils
occupent en même temps qu'ils font ces tâches-là, soit dit en passant, qui ont une petite entreprise à côté, ils ont leur travail.
Vous avez dit passion, Michel, vous êtes passionnante, mais on doit s'interrompre pour des publicités. On est de retour tout de suite après.
C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section « C'est ta fête » du cjso.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux.
Ta fête, une présentation d'Azimut Diffusion, du cinéma Saint-Laurent et de la boucherie Les Viandes Joyales.
En hiver, avoir un bon système de chauffage est la clé du confort. Climatisation Jimmy Chassé répare les systèmes au mazout et électrique. Remplace et installe les systèmes éco-énergétiques et tout système de chauffage central électrique. Contactez les vrais experts. ClimatisationJimmyChassé.ca.
Profitez du spécial de Ramon Pizzeria tous les mardis et mercredis sur la pizza 14 pouces offerte au prix de la 12 pouces, peu importe votre choix. choix de garniture. Valide au comptoir, en salle à manger et sur livraison pour un temps limité. Ramon Pizzeria, 493 Boulevard Fizet, Sorel-Tracy.
Valérie, l'après-midi, c'est votre rendez-vous de fin de journée. Mon nom est Valérie Ferland. Ma mission, vous tirer un sourire, vous faire taper du pied et vous garder bien informé. J'ai la chance d'être accompagnée de Sylvain Rochon et de mes collaborateurs pour parler santé, lecture et vie au travail. Soyez là du lundi au jeudi dès 15h30.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
À une soixantaine d'heures de la Journée internationale des droits des femmes, cette édition de la tribune est consacrée à la situation des femmes dans la région. Mes invités, Marie-Pierre Gamache, Michel Gauthier, Catherine Objoie, Carmen Ostigui, Héloïse Paquin et Geneviève Péloquin. Geneviève Péloquin, vous travaillez à la permanence nationale du Parti québécois. Vous occupez le poste névralgique de directrice de l'organisation. Vous saviez que j'allais évidemment parler de la présence des femmes en politique. Comment expliquer que sur 12 maires dans Pierre de Sorel, nous n'ayons que deux mairesses, que deux conseillères à Sorel-Tracy, qu'une à Sainte-Anne? Il y a Saint-Joseph qui est paritaire, 3-3. Mais c'est très rare. Qu'est-ce qui continue d'éloigner les femmes, vous pensez, de la politique?
Mais en fait, Michel a donné un début de réponse à ça. Quand on approche une femme pour être candidate à quelque part, ça prend 5-6 appels avant de la convaincre. Tandis que si j'appelle un homme, généralement, puis je disais « ça t'intéresserait-tu de te présenter? » Généralement, la réponse est oui, très rapidement. Les femmes ont généralement beaucoup plus peur, beaucoup plus besoin de se faire convaincre, ont l'impression de ne pas être à leur hauteur, ils ont l'impression... C'est très difficile, c'est la même chose. En fait, les femmes s'impliquent beaucoup plus très, très proches d'elles. Elles vont s'impliquer dans les conseils d'établissement de l'école, dans les comités de parents de garderie, ils vont s'impliquer. Puis c'est drôle, je fais une parenthèse, on a le phénomène inverse dans ces comités-là. Quand il y a un papa qui s'implique, tout le monde est bien énervé de voir un papa arriver dans un conseil d'établissement d'école qui passe haut la main. Mais c'est très difficile, les femmes ont peur. Puis pourtant, c'est drôle parce que actuellement, au Parti québécois, il est dirigé à peu près exclusivement par des femmes. La directrice générale
est là. Elles sont à des postes de pouvoir, mais elles ne siègent pas à l'Assemblée nationale.
Non, chef de cabinet, c'est une femme. La directrice générale est une femme. La directrice des communications est une femme. La présidente du parti est une femme. La présidente de la commission politique est une femme. Et moi, je suis une fille. Moi, je pense bien. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui gravitent à des postes-clés. C'est la même chose. La directrice de la CAQ est une femme. La directrice de Québec solidaire est une femme. Il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent. Mais de là à faire le pont pour aller mettre sa face sur un poteau puis aller faire campagne, c'est beaucoup plus difficile.
La directrice de l'organisme de développement économique au fédéral est une femme aussi. Pourrions-nous ajouter Michel Gauthier? Vous êtes très nombreuses, les femmes à la SADC, d'ailleurs.
Ben oui, on a un homme, nous.
C'est des femmes qui sont là depuis de longues dates. Ma collègue Lise Gauthier, Sylvie, Nadia, mon Dieu, Ginette. Il y a Luc, maintenant, qui est avec nous. C'était quoi la question?
c'était les femmes et la politique.
J'étais absorbée dans ce
la politique. Ouais, c'était les femmes et la politique. Est-ce que l'une d'entre vous a pensé un jour faire de la politique, se briguer les suffrages là, comme candidate? Là,
Moi, je sais qu'autour de moi, souvent, les gens disent « Ah, tu devrais... » Puis non.
Non.
Ah, moi,
non.
Je suis plus poétique non. que politique.
Non. Je vais m'impliquer et je m'implique dans beaucoup, beaucoup de choses. Mais la politique, pour moi, c'est pas mon outil.
Carmen Ostigui, vous œuvrez au regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Saint-Ours, qui a été proclamée cette semaine capitale de la jeunesse littéraire. Ben là, il faut dire qu'elle a été proclamée par Saint-Ours.
Hein? Ça va s'étendre, tout ça, là. Oui,
ben oui,
c'est sérieux.
Souhaitons-le. Alors, vous œuvrez donc, disais-je, au regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, là, ce célèbre concours qui s'adresse aux 6 à 17 ans. Est-ce qu'il y a plus d'autrices que d'auteurs en herbe, ou est-ce que c'est l'inverse?
C'est très bien partagé, étonnamment. Il y a peut-être un peu plus de filles cette année. Je dirais, on vient tout juste de terminer la date butoir. On a reçu 73 manuscrits. Alors, ça veut dire que 73 jeunes de toute région, incluant la Côte-Nord, Québec, Nunavut, etc., vont se voir imprimer, éditer leurs livres.
et puis participer au Salon du livre à l'automne.
Est-ce que les stéréotypes masculins et féminins se vérifient dans votre concours? Les ouvrages des filles, est-ce qu'ils traitent de sujets traditionnellement féminins, puis ceux des gars, de sujets traditionnellement masculins?
Il y a beaucoup de super-héros au niveau des garçons, là, c'est sûr. Oui, il y a un petit peu de ça, je dirais, des histoires un peu à l'eau de rose. Mais contrairement aux romans, c'est sûr, c'est en grande majorité les romans qu'on reçoit, mais cette année, on a beaucoup de nouvelles. Alors, c'est quelque chose, un phénomène nouveau. On a évidemment de la bande dessinée, peut-être plus... Non, ça, c'est égal, garçon-fille, la poésie, garçon-fille, et ça, vraiment, la façon d'aborder la poésie, je dirais pas que c'est à cause des genres ou à cause du tout. On voit plutôt... des états d'âme qui sont amenés. Mais le lire sans savoir qui l'a écrit, d'ailleurs, c'est comme ça que le jury procède. Oui. Je ne pense pas qu'il pourrait savoir que c'est une fille ou un garçon.
Il ne peut pas deviner le sexe de l'auteur, non. Entrons un peu dans les ménages. On a parlé de charge mentale pas mal depuis le début de l'émission. Le partage des tâches, est-ce que ça fait du chemin, vous trouvez? C'est quand même le béaba, me semble, ça, de l'égalité. Mm-hmm. Est-ce qu'elles sont plus partagées qu'elles l'étaient, les tâches, Sophie?
Héloïse.
Et voyons! Héloïse! Héloïse.
Je fais...
Non, mais oui. Si Sophie se demandait pourquoi je ne l'avais pas invitée,
oui,
elle
ça.
Va décomplexer la...
Oui.
C'est
que je choisis
au hasard. Oui, pile ou face. Héloïse, sur le partage des tâches.
Mais oui, je suis maman de trois garçons. Aujourd'hui, bon, ils ont déjà quitté la maison, là, mais avec mon conjoint, c'était quand même très partagé. Je pense qu'en général, les tâches sont bien partagées.
Oui.
Mais c'est qu'on parle, oui. On parle de la charge mentale, celle-là est peut-être moins partagée. Je pense que vraiment, les femmes, bon... Pourquoi? Je peux pas dire, mais est-ce que c'est génétiquement prouvé? Je sais pas, mais c'est toujours la femme qui, même si, les tâches sont partagées, mais c'est elle qui va savoir l'horaire de la famille, qui va prendre des rendez-vous, qui va... le petit est malade, qu'est-ce qu'on fait? Puis qui va... Ça, je pense qu'il y aurait peut-être un peu de chemin à faire là-dedans.
Il y a une bonne partie de la chanson de Sylvain Lelièvre, « Maman est là », qui est encore bonne. C'est-à-dire qui reflète encore ce qui se passe dans les familles québécoises.
On les porte 9 mois aussi, les enfants. On les attend, il y a quelque chose. Puis les premiers mois de la relation d'un bébé, c'est ça.
J'oserais dire perfectionniste, de prévoir à l'avance de tout ça.
C'est peut-être dans nos gènes. Je ne sais pas, là, c'est encore peut-être un stéréotype, mais on a toujours... envie, en tout cas, moi, j'ai toujours envie de prendre soin de toute ma famille, depuis mes parents, j'ai encore ma mère, jusqu'à mes petits-enfants. Mm. Tu sais, l'autre jour, ça m'a frappée, je gardais un de mes petits-enfants, puis après, j'ai appelé maman. Je suis vraiment entre toutes les générations. Puis évidemment, je m'occupe de mon conjoint, mes amis, les enfants, la famille. Puis plus j'en ai, plus je veux que ce soit parfait, puis que ce soit impeccable. Puis si je m'en vais, il faut que ce soit impeccable aussi. C'est que tu sais tout ce qu'il faut. Puis ça, je pense qu'on est encore comme ça, là. Puis c'est du stress aussi.
Moi, mon conjoint, quand je l'ai rencontré, évidemment, était papa monoparental. Donc, puis ce que j'ai remarqué aussi, ben moi, ce que je dis toujours, c'est mon chum, c'est comme une femme aussi, tu sais. Mais tu vois comment on dit ça, mon chum, c'est encore dans nos mentalités parce que c'est ce qu'on dit. Mon chum, c'est comme une femme. Mon chum, il fait le ménage, mon chum, il fait à manger. Il fait tout, mais. Effectivement, je viens de penser à ça.
Il y a des femmes très envieuses, là, autour de
Oui, non, oui, effectivement, tout le monde adore Simon. Salut, Simon, d'abord. Mais, par contre, je dois avouer que Marie, tu sais, souvent, c'est elle qui prend les rendez-vous. C'est elle qui va aller chez le dentiste. C'est elle, plus souvent qu'autrement, va aller à l'école. Mon chum va souvent aussi dans les rencontres de parents. Mais, effectivement, je suis comme... finalement, tu sais, c'est pas comme la maman. Tu sais, c'est ça que je dis, mon chum, c'est comme la mère aussi, il fait les deux, mais effectivement, la maman a le côté rendez-vous, les mitaines, ici. Mon chum, père parle beaucoup de mitaines aussi. Toi, t'es ça, en tout cas. Mais la maman, rendez-vous, effectivement, il y a ce côté maman-là qui a besoin de...
Ça passe beaucoup trop vite. Écoutez, il reste 3 minutes à cette émission. 3 minutes.
Qu'est-ce qu'on fait?
Journée... Ben oui, qu'est-ce qu'on fait? On va clore ça comment? Journée internationale des femmes dans une 60aine d'heures, le 8 mars, qui a inspiré cette émission. Ma dernière question, est-ce qu'elle a encore tout son sens cette journée-là? Il y a immédiatement Catherine qui opine du bonnet, oui.
Oui, oui, absolument, oui, parce que comme on l'a dit d'entrée de jeu, là, les droits des femmes ne sont pas encore acquis. Il y en a, oui, mais elles peuvent être battues en brèche très rapidement, comme on l'a vu aux États-Unis, par exemple, avec la loi sur l'avortement. Donc, oui, absolument, il faut rester vigilant, ça, on l'a dit tout le temps aussi, là.
Les autres...
Tout à fait, c'est un devoir de mémoire.
Ne serait-ce que pour la réflexion, comme on fait aujourd'hui.
La nouvelle féministe en moi dit oui, oui, c'est nécessaire.
Pour moi, cette émission-là va t'inspirer une chanson.
Sérieusement, j'étais en train de me faire un post, une publication Facebook. J'étais prête. Je suis comme, OK, non, je viens réaliser beaucoup de choses. Je suis féministe.
Les droits sont acquis, mais oui. Acquis.
C'est ça, mes droits sont acquis, mais acquis.
Ah, le jeu de mots, là. Il y a un lourd sens, ton jeu de mots. C'est les droits sont acquis, mais acquis.
Voilà.
Acquis
sont-ils?
Oui. Non, c'est compliqué d'être dans ma tête, des fois.
Oui, Héloïse, bon, on en met une fois comme il faut.
Oh, bravo! oui, c'est certain. Ça doit rester encore là, comme pour la mémoire, pour se remémorer des choses qui se sont passées, puis du chemin qui a été parcouru, donc oui.
Michel a l'air pensive, je trouve.
Ben, j'ai pas le nom. C'est en fait pour conserver l'égalité, l'équité, de l'inclusion, pour continuer à ne serait-ce qu'avoir des émissions comme aujourd'hui, pour ne pas oublier et de continuer à se projeter parce qu'on a un devoir de continuer et de créer parce que c'est à nous à créer tout ce qu'on a comme bagage.
J'aime ça.
Magnifique.
Merci beaucoup, merci mesdames, de votre participation plus qu'intéressante à cette émission. Marie-Pierre Gamache, Michel Gauthier, Catherine Objoie, Carmen Ostigui, Héloïse Paquet et Christine Pellerache-Express. Alors, merci à vous, chers amis, à la maison et à la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune.